En cette période troublée, avec beaucoup de questions et de perturbations, je vous invite à revenir au début, non pas de l'histoire du monde, mais de l'histoire de l'Église. En relisant ce texte, qui a déjà été très bien lu au début de ce culte, les premiers versets du tome 2 de l'évangéliste Luc, acte 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, réunis, demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dès le tout début, le Saint-Esprit est là. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Luc, ce médecin grec d'origine païenne, devenu disciple de Jésus-Christ, ami et compagnon de l'apôtre Paul, s'adresse dans ses deux livres à Théophile, peut-être un personnage précis qui avait ce beau nom propre, peut-être un personnage qui, avec un si beau nom, évoque tous ceux qui aiment Dieu, c'est ce que veut dire ce nom. À coup sûr, ces deux livres sont écrits pour nous tous. Nous croyons que Dieu a inspiré les auteurs bibliques pour que nous les lisions au fil des générations, des siècles, et que nous apprenions à mieux le connaître. J'ai redécouvert, en méditant ce texte, avec l'axe que j'ai annoncé, continuons à entendre ce que la parole de Dieu nous dit du Saint-Esprit, j'ai redécouvert que le verset 2 était plus étonnant que je ne l'avais en tête. Il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. On est après ou avant la Pentecôte ? Ouais, en plus, ils répondent. C'est fait pour ça les questions. On est avant la Pentecôte. Et Jésus a parlé en vrai, en live, en direct. Et qu'est-ce que Luc inspiré nous dit que Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit ? Et cela nous dit de façon très très claire en fait, mais plus que je ne l'avais remarqué en lisant pas assez attentivement ce texte, que le Saint-Esprit est nécessaire, que le Saint-Esprit est là pour que nous recevions la vérité, et que même quand Jésus parlait en direct avec ses disciples. Dieu lui-même, par son esprit, est celui qui ouvre les cœurs. De la même manière, 2000 ans plus tard, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à la recevoir. Ceci dit, il ne faudrait pas comprendre ici une réalité mystique déconnectée des réalités et de l'histoire, et c'est là tout le poids du verset 3. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Ce verset nous rappelle l'importance de la résurrection et des preuves de celui qui est venu pour vaincre la mort et qui a vaincu la mort, qui est venu pour nous donner la vie et qui donne la vie. L'apôtre Paul explique dans le chapitre 15 de sa lettre aux Romains que sans la résurrection, tout s'écroule. Tout. L'évangile n'est pas vrai, notre foi n'est pas fondée, notre salut n'est pas enraciné dans la vérité et plus rien ne reste, sauf éventuellement des rites religieux. Mais ce n'est heureusement pas le cas, le Christ est vraiment ressuscité. Jésus est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et cet enracinement dans l'histoire, cette résurrection est tellement importante que Dieu a multiplié les preuves. Donc autant le verset 2 nous dit que même quand Jésus parlait en direct avec ses disciples, c'était par le Saint-Esprit que la vérité était reçue. Autant le verset 3 nous rappelle que toute la vérité est enracinée dans l'histoire et dans les preuves que Dieu a bien voulu dans sa bonté donner aux hommes. La foi en Jésus-Christ n'est pas le résultat de quelques idées fortes mises en place par quelques théologiens ou par les premiers apôtres qui ont voulu donner une doctrine chrétienne à l'humanité. Non, elle s'appuie sur des faits historiques et sur des centaines de témoins oculaires. Le Saint-Esprit est celui qui a accompagné les paroles de Jésus avant même la Pentecôte, et Dieu est celui qui atteste la vérité de tous ses enseignements par des faits historiques visibles. Continuons ce que ce texte nous dit du Saint-Esprit en remarquant verset 4, ce qui a déjà été remarqué au début de ce culte, qu'il nous faut attendre. Comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, donc le Saint-Esprit, d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Le Saint-Esprit est annoncé et tout commence dans le livre des Actes et dans l'histoire de l'Église, par cette première étape qui est l'attente. Et ils vont attendre 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. 10 jours d'attente parce qu'ils doivent apprendre que ça ne sert à rien de partir sans être équipé. C'est logique. Mais au-delà de la logique, il y a vraiment un enseignement théologique important ici. On ne peut pas avancer sans que le Saint-Esprit nous accompagne. Il se trouve que Dieu a promis sa présence tous les jours, de tous les instants, mais nous ne pouvons pas faire un pas sans l'aide de Dieu et sans l'assistance du Saint-Esprit. Si nous imaginons être assez prêts pour vivre cet après-midi avec les forces reçues pendant un culte, nous nous trompons. Si nous imaginons avoir quelques décennies de vie chrétienne, j'en fais partie, et pouvoir vivre cette semaine sur la lancée, dans les apparences, oui. Dans le fond, non. Je ne peux pas faire un pas significatif, je ne peux pas faire une œuvre qui soit vraiment à l'honneur du Seigneur sans l'assistance du Saint-Esprit. Donc je dois attendre, pas au sens que je ne vais rien faire en attendant quelque chose de particulier dans ma vie, et je vais continuer quelques œuvres bonnes avec l'aide de Dieu cet après-midi, parce que le Saint-Esprit est effectivement là. Mais je dois attendre au sens que je dois comprendre que sans lui, je ne peux rien faire. Et je dois comprendre que toute ma vie chrétienne n'est possible qu'avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce que répète le verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Une fois de plus, ils ont comme pas tout à fait bien écouté. Le Seigneur leur donne des vérités tellement fondamentales. Vous serez baptisés d'Esprit Saint, et eux sont dans leurs pensées, et le calendrier les intéresse. Mais qu'est-ce que dit Jésus au verset 5 ? Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Jésus annonce la Pentecôte, ce jour où Dieu va accomplir la promesse annoncée par Joël et par beaucoup de prophètes. Il va répandre abondamment son esprit qui était déjà bien à l'œuvre depuis tout le temps. La promesse du Saint-Esprit répandue abondamment et ils vont être baptisés d'Esprit Saint. Ce qui est vrai pour tous les disciples. Nous avons besoin d'être baptisés dans l'Esprit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors, on pourra en parler des heures, je suis d'accord. Mais on va commencer simplement. Comme Jean a baptisé d'eau, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Ce texte, entre autres, nous dit très simplement que nous avons besoin d'être immergés dans l'Esprit. Que nous avons besoin d'être entourés par devant, par derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, par l'Esprit. Et c'est à nouveau un enseignement qui nous dit que je ne peux pas faire un seul pas sans l'assistance, sans l'œuvre, sans l'action du Saint-Esprit. Jésus a accompli une œuvre parfaite par sa vie, sa mort, sa résurrection. Sur la croix, il a pu dire, avant même la résurrection qui était certaine, tout est accompli. Et le Saint-Esprit accomplit une œuvre parfaite aussi. Cette autre personne de la Trinité accomplit aujourd'hui même une œuvre parfaite sans laquelle nous ne pouvons pas continuer. Nous avons besoin d'être baptisés dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire, premier enseignement tout simple, être immergés par le Saint-Esprit. Ça ne me suffit pas que le Saint-Esprit, si vous acceptez une autre image, me tienne la main. Ça paraît bien que le Saint-Esprit me tienne la main. Mais l'image en dit plus. Il faut que je sois baptisé d'Esprit Saint et que le Saint-Esprit m'entoure de toutes parts. Sinon, la marche chrétienne n'est pas possible. Dès le début, le ton est donné, rien ne se fera sans Dieu, sans son Esprit. Remarquons l'enseignement théologique fondamental, notre dépendance en tout temps, en tout point, dans tous les domaines, de Dieu, du Saint-Esprit. Cela nous conduira à devoir attendre, et quelquefois physiquement, que le temps de Dieu arrive. Et il nous faut rester paisibles et confiants, nous l'avons beaucoup chanté ce matin, quand le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous entoure, c'est en lui que nous sommes baptisés, c'est par lui et avec lui que nous avançons, et ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite. Ça peut m'arriver. Pourquoi vous souriez ? Oui, je fais partie de ceux qui, de temps en temps, voudraient que les choses aillent plus vite, et qui pensent pouvoir prévoir, calculer, organiser, motiver, mobiliser. Mais il y a le temps de l'Esprit. Et dans un des grands chapitres de cette période, il y a des choses qui ont été décalées, et après coup, on reconnaît, pas toujours, mais quelquefois on le voit, que le temps de Dieu était le bon. Dans la dépendance totale de l'Esprit, nous devons être baptisés de l'Esprit. Romains 8 nous enseigne que nous sommes tous baptisés de l'Esprit et que nous ne pouvons pas marcher sans l'assistance de l'Esprit. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes, par la grâce de Dieu, au bénéfice du baptême du Saint-Esprit. L'exigence, le défi, c'est qu'il nous faut apprendre à marcher en acceptant d'être entourés à droite, à gauche, devant, derrière par le Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup de mal à accepter que le Saint-Esprit soit celui qui décide de tout dans ma vie et que je doive être soumis au Saint-Esprit. Je pense que c'est la leçon principale du paragraphe suivant. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, et Jésus revient au thème, que les disciples n'ont comme pas vraiment entendu, la nécessité du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus rappelle la grande promesse. Vous allez être équipés par Dieu lui-même. Pas par des centaines ou des milliers d'anges, et je ne nie pas la présence des anges enseignés par plusieurs textes de la parole de Dieu, et je ne nie pas leurs œuvres innombrables. Mais je remarque devant ce texte que la grande promesse, ce n'est pas « des milliers d'anges vont vous accompagner, vous protéger sur la route et ailleurs ». La promesse, c'est Dieu lui-même. C'est celle du Saint-Esprit venant comme une puissance nous accompagnant et nous permettant de marcher. De marcher où ? À Jérusalem. Et rien que ça, c'était déjà beaucoup. Je vous invite à remarquer les quatre étapes, à nouveau ce matin, comme étant mission impossible. Jérusalem, c'était une ville très marquée par la présence des autorités religieuses, très opposée à Jésus-Christ et à ses disciples. Et c'est là que Jésus les envoie. Là où il a été crucifié, là où il a été rejeté, là où il a été malmené, Jésus leur dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». Ça commence difficile. Ça continue très difficile. Dans toute la Judée, et ça fait beaucoup pour 12 hommes. Et pour l'instant, ils sont 11. C'est sûr qu'ils ont vécu des choses inoubliables avec Jésus pendant 3 années, mais ils sont en train de lui dire au revoir, lui est en train de leur dire au revoir, et ils n'ont pas toute sa sagesse, toute sa carrure. C'est difficile de reprendre le flambeau après Jésus. Vous ne pensez pas ? C'est difficile de reprendre le flambeau après des personnes qui ont marqué une mission, un comité ou une action quelconque. Reprendre le flambeau après Jésus, c'est difficile. Et il leur dit dans toute la Judée, 3e étape, dans la Samarie. Oups. Vous avez bien dit la Samarie ? Alors là, c'est un gros os de plus. Nos ennemis de toujours, avec un décalage religieux énorme, et tout de même, des étrangers peu fréquentables, même si Jésus l'a encore a merveilleusement ouvert la voie, pas facile de le suivre. Vous serez mes témoins en Samarie, là où vous n'auriez vraiment pas choisi d'aller, là où ça peut particulièrement vous coûter d'aller. Et je ne parle pas vite, parce que je veux qu'on réfléchisse à ce que ça peut vouloir dire pour nous. Vous serez mes témoins là où vous n'auriez pas choisi d'aller. Et puis, 4e étape, jusqu'aux extrémités du monde. Et là, ce qui pouvait nous rester d'espoir en nous-mêmes tombe, les bras tombent et tout le reste. Un des enseignements très importants de l'évangile de Luc et de son tome 2, le livre des Actes, avec Corneille, avec les voyages de Paul, grande vérité clairement énoncée dès le tout début du livre des Actes, avec le dernier discours de Jésus, maintenant avant l'ascension, Luc affirme, en répétant de la part de Dieu l'enseignement de Jésus, que l'évangile est à destination du monde entier. Au moment où Luc écrit, ceci est affirmé à une église naissante qui est en pleine recherche de sa relation au judaïsme et qui est en pleine proie aux premières persécutions. Il ne s'agit ni de rejeter Jérusalem, ni de nier la profondeur des persécutions, mais d'entendre la beauté de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Et avec ce verset, nous avons le fil conducteur de tout le livre des Actes et de toute l'histoire de l'Église, qui commence à Jérusalem, qui nous conduira chez Corneille et les autres, et tout autour du bassin méditerranéen pour arriver jusqu'à Rome et puis plus tard en Gaule et jusqu'en Alsace. Qu'est-ce que nous dit ce verset 8 de la marche par l'Esprit ? Il n'est pas question ici de songe ni d'apparition particulière, et je n'ai rien contre. Et je sais que Dieu peut le faire, et je sais que Dieu le fait. Mais rien ici n'annonce dans la durée une marche par les songes et des manifestations particulières de Dieu. Pas non plus de dons ou de manifestations exceptionnelles. Je sais que dans 10 jours, il y aura la Pentecôte et qu'il y aura des manifestations exceptionnelles. Mais ce verset ne parle pas que du jour de la Pentecôte. Il parle de la mission pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Et donc, il n'est pas ici question de dons particuliers, de manifestations spectaculaires. Il est question du don du Saint-Esprit lui-même pour pouvoir accomplir cette mission. La promesse, c'est celle de la présence du Saint-Esprit qui va survenir, qui va habiter parmi nous, qui va nous inonder, dans lequel nous allons être baptisés. Qu'est-ce que nous dit ce grand verset d'Actes 1, 8 ? Qu'est-ce que la marche par l'Esprit ? C'est entendre une mission. Marcher par l'Esprit, c'est accepter d'entendre une mission et c'est obéir. Il s'agit d'accepter, il s'agit de se soumettre, d'obéir, il s'agit de courage, d'audace pour aller jusqu'aux extrémités du monde, au point d'obéir et d'accepter des missions impossibles. C'est clairement une mission impossible que Dieu demande. En comptant sur ses forces et uniquement sur ses forces, sur l'accompagnement constant du Saint-Esprit qui est sur les disciples, qui est avec eux, qui est en eux. Et là, j'aimerais, si nous étions en petit groupe, faire un tour de table et vous demander si vous êtes surpris, déçu. C'est ça, marcher par l'Esprit. C'est se soumettre. C'est obéir. C'est accepter une mission. Bien, je le crois. Je n'oublie pas tout ce qui nous dit que Dieu peut nous accorder des dons particuliers, peut manifester son accompagnement de façon spectaculaire, mais je lis dans ce texte que ce qui est confié aux apôtres avec l'annonce de la promesse de tous les temps, c'est une mission. Et je veux réentendre avec vous ce matin que marcher par l'Esprit, c'est obéir. Que marcher par l'Esprit, c'est accepter d'aller là où Dieu veut que j'aille. C'est accepter de remplir les missions que le Seigneur veut me confier à l'intérieur de la grande mission qui est le faire connaître à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, Jésus fut élevé et les disciples, une fois de plus, ne savent pas trop quoi faire, comment réagir, et quoi maintenant? Et ils regardent le ciel avec 1000 questions. Le 1000 n'est pas dans le texte. Mais ils regardent le ciel, moi je dois regarder le texte, eux regardent le ciel avec beaucoup de questions. Et qu'est-ce que les anges vont leur dire? Ne restez pas là avec vos questions, obéissez. Faites confiance au Seigneur et allez là où il vous a dit d'aller. Faites ce qu'il vous a dit de faire. Et les disciples vont obéir et vont faire ce que le Seigneur leur a dit de faire en attendant son retour qui est annoncé, qui est promis. Et après ce temps de grandes questions, et c'est bien normal, et nous en avons, et vous en avez, et j'en ai, et nous en aurons encore, ils entendent la réponse qui est « Continuez votre route, apprenez l'obéissance et concentrez-vous sur ce que le Seigneur vous a donné comme mission. » Alors ils retournèrent, verset 12, à Jérusalem. Et là, ils vont tout simplement continuer leur marche chrétienne en obéissant aux ordres du Seigneur. Et l'ordre du moment, c'est d'attendre. Donc, ils vont attendre. Et quelquefois, l'ordre, c'est d'aller. Et à certains moments, l'ordre, c'est de parler. À certains moments, l'ordre, c'est d'oser parler à des personnes qui n'ont pas envie de nous entendre. Et quelquefois, c'est apprendre à se taire quand j'aurai envie de parler. Mais dans tous les cas, c'est obéir. Dans tous les cas, c'est nourrir une attitude de soumission à celui de qui je dépends, à celui que je dois écouter. Et pour cela, ils vont faire ce qui est extrêmement important, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jacques, et avec ses frères. On trouve la prière des dizaines et des dizaines de fois dans les livres des Actes. J'ai souligné dans ma Bible la prière dans le livre des Actes. C'est partout. Elle est enseignée dans toutes les épîtres comme étant une activité incontournable de ceux qui veulent marcher par l'Esprit, de ceux qui ont compris qu'ils sont baptisés dans l'Esprit et qu'ils ont besoin d'écouter cet Esprit, de lui obéir, parce que marcher par l'Esprit, c'est être obéissant. Ce qui est très inquiétant, c'est que dans l'historique de l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, Dieu seul connaît l'histoire, tout à fait. Mais ce que nous en apercevons, et ce que nous apercevons dans l'histoire immédiate de notre vécu aujourd'hui, c'est que les réunions de prière ne sont pas forcément les réunions où la foule est la plus grande. Et c'est un vrai souci. Et je ne veux pas être légaliste, je ne veux pas oublier qu'on peut prier chez soi, je ne veux pas être légaliste du tout. Mais si je suis inquiet, c'est parce que je me connais mieux que je vous connais et que je sais que la prière n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans ma vie. L'excellente bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est là et que son Église continue, elle se répand tout autour de la terre et il se passe des choses merveilleuses tout autour de la terre et il se passe des choses merveilleuses dans notre Église par la grâce de Dieu. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, entendons ce qu'est marcher par l'Esprit. C'est en particulier attendre son retour. Nous n'attendons plus la Pentecôte, elle est arrivée. Nous allons bientôt la fêter. Mais nous attendons ce retour et nous voulons marcher par l'Esprit, nous voulons obéir. Et pour cela, il nous faut en particulier être à son écoute, être dans le recueillement, mieux le connaître et prier. La parole de Dieu le répète, nous le répétons. Et je crie à Dieu, là, les yeux ouverts, pour qu'au-delà des répétitions, son Saint-Esprit, justement, nous touche pour que nous progressions. On ne va pas simplement répéter année après année, décennie après décennie, qu'il faudrait qu'on prie plus. Et qu'il est important qu'on ait un esprit de soumission à Dieu et que cela marque notre vie de disciple. On veut progresser, je le veux. Et je demande à Dieu, et je vous invite à le faire, que cette journée, que cette semaine, soit marquée par des progrès dans l'obéissance, dans l'écoute de sa parole, dans la prière, dans la vie de piété, pour que nous marchions par l'Esprit et que nous puissions mieux et plus glorifier son nom. Conclusion, quatre remarques. Dès le début et en tout temps, le Seigneur parle par son Esprit, avant même la Pentecôte. C'est son Esprit qui a révélé la vérité. Un texte que vous m'avez entendu citer plus d'une fois, psaume 51, 1000 ans avant la Pentecôte. Comment David a pu dire des choses aussi extraordinaires que ce qu'il dit dans le psaume 51? Comment a-t-il pu comprendre que les sacrifices n'étaient pas ce que Dieu demandait, alors que tout le Lévitique dit de la part de Dieu qu'il faut les offrir? La réponse est claire. Ce n'est que par le Saint-Esprit, c'est impossible autrement que David ait compris ce qu'il dit au psaume 51, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est impossible de dire à Dieu le contraire de ce qu'on lit dans Moïse, en toute repentance, avec une attitude incroyable de David. « Seigneur, je t'adore, je veux te suivre, transforme-moi, je ne vais pas t'offrir de sacrifice puisque ce n'est pas ce que tu demandes. » Mais comment David peut-il dire cela? Par le Saint-Esprit. Dès le tout début et en tout temps, le Seigneur parle par le Saint-Esprit. Deuxième remarque, en ayant relu ce texte avec vous ce matin, nous devons apprendre à attendre. Rien ne sert de partir vite, surtout pas de partir seul. Quelle folie d'oublier de façon répétée que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis sûr que la quasi-totalité des personnes dans cette salle signerait à la seconde même une feuille qui passerait, je crois que je ne peux rien faire sans Dieu. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la grande majorité signerait à la seconde où la feuille est dans leurs mains. Le défi que je nous lance, c'est de repérer honnêtement dans nos vies ce qui le manifeste et ce qui le contredirait. Nous devons apprendre à attendre et à tout faire en dépendant de lui. Troisième point, une marche dans la dépendance totale de Dieu, accompagnée constamment par son esprit. C'est une mission et une promesse, acte 1, 8. Une mission vertigineuse, une mission, des missions impossibles. Si certains d'entre nous sont en ce moment devant des missions qui leur paraissent particulièrement impossibles, j'aimerais, avec le soutien de ce texte biblique, leur dire bon courage. Vous n'êtes pas dans une situation bizarre, étonnante, rare. Vous êtes dans une situation assez normale, tout à fait normale. Les missions que Dieu nous confie sont impossibles. La mission de base est impossible. Mais la promesse est suffisante. La promesse est vertigineuse. C'est par son esprit, parce que sa présence est réelle, constante, que nous pourrons faire les pas suivants. Dernière exhortation en conclusion. Tout cela en attendant le retour de Jésus-Christ et en persévérant dans l'écoute et dans la prière, tellement souvent répétée par la parole de Dieu et entre nous. Mais comme je le disais il y a quelques instants, en demandant à Dieu de nous accompagner, mettons-le en pratique. Osons prier les uns pour les autres pour que nos vies de prière progressent. C'est un peu un cercle vertueux, mais je vous invite à oser le faire. Osons prier pour que notre vie d'église soit marquée par un esprit de prière. Osons prier pour que toutes nos activités, comme hier au soleil, soient marquées pour beaucoup d'entre nous par des temps de prière, de recueillement, où l'on se souvient qu'on a besoin de lui et qu'il n'y a que lui qui peut nous accompagner et nous permettre d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Oui, souvenons-nous qu'il revient comme étant une perspective tellement belle et merveilleuse qui peut nous accompagner au moment où nous voulons encore le faire connaître avec toutes les forces que lui nous donne par son esprit. Bonne suite de marche par l'esprit, chers frères et sœurs. Je prie encore. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous pouvons regarder à toi maintenant en te demandant de continuer ton œuvre dans nos cœurs, que la lecture de ta parole, que ce temps de réflexion puisse par ta grâce, par ton esprit nécessaire, incontournable, faire son chemin dans nos cœurs. Qu'en ce moment même, nous soyons, je sois réceptif à ce que tu veux montrer dans ma façon de marcher, ce que tu veux corriger, ce que tu veux compléter dans ma façon de marcher en tant que disciple. Seigneur, pardon pour tout ce qui est insoumission dans ma vie. Et nourris en nous par la foi un esprit de confiance, de soumission, de détermination à faire passer ta volonté avant la mienne. Merci parce que tu veux, selon tes promesses, continuer à nous transformer et à nous inonder de ton esprit comme nous en avons besoin. Merci pour tes promesses qui sont largement à la hauteur des défis insurmontables qui sont devant nous, insurmontables tout seuls. Mais merci pour tes promesses qui les dépassent largement. Et aide-nous à grandir en confiance, en paix, dans la foi, dans l'adoration. Et accompagne-nous tout au long de cette journée et des jours qui viennent. Amen.